Working Class Heroic Fantasy, chapitre 13. Radio Guérilla. Précédemment, la compagnie est cachée au cœur d'une banlieue naine, chez Jazion. Carmalia a compris que l'épée des cerfs se trouvait à la forteresse de la Bourse de Greydeck, à Dordelan, à l'autre bout du pays. Pour s'y rendre, le magicien suggère de prendre l'avion. Mais les forces de l'ordre surveillent la banlieue de près. Toute la compagnie, à l'exception de Jazion, était rassemblée dans la cour intérieure de l'immeuble. Protégée par un préau, elle restait invisible pour l'hélicoptère qui apparaissait ponctuellement dans le carré de ciel bleu au-dessus des toits. La journée était déjà bien avancée. C'était le milieu de l'après-midi. Barn tenait dans sa main un téléphone portable que lui avait remis Jazion. Il n'avait pas cherché à savoir, mais il était persuadé qu'il s'agissait d'un téléphone volé. Certes, il se sentait coupable de céder au cliché du nain voleur, mais il ne voyait pas d'autre explication au fait que Jazion ait pu leur en procurer un si rapidement, un autre que le sien en l'occurrence. Il braquait le téléphone face à lui, le capteur vidéo dirigé vers Carmalière, qui était debout et fixait l'objectif. « Chers amis, dit-il, bonjour, je me nomme Carmalière, mais je crois qu'il est inutile de me présenter. Depuis une semaine, on ne parle que de moi et de mes camarades sur toutes les chaînes. On nous a accusés de tous les maux, présentés comme des terroristes. On a organisé une véritable chasse à l'homme contre nous. Il est temps pour moi de vous donner notre version des faits. » Le magicien prit une profonde inspiration. « Tout d'abord, sachez que chacun des actes violents que nous avons été contraints de commettre l'ont été dans des situations de légitime défense. La vidéo des caméras de surveillance de la BNPO qui a fuité a déjà dû vous en convaincre. Pourquoi alors ne pas nous rendre à la police? Eh bien parce que nous avons une mission à accomplir. Il s'agit d'une quête de la plus haute importance qui nécessitera sans doute de violer encore une fois la loi. En effet, lorsque les pouvoirs en place deviennent tyranniques, la désobéissance civile doit devenir la règle. » Barn savait, en filmant cette intervention, que ce serait sur ce point que Carmalière aurait le plus de mal à convaincre une partie de son public. Lui-même, s'il n'avait pas été partie prenante de l'aventure, n'aurait pas accepté cette légèreté face à la justice. Cela ne lui facilitait pas les choses. L'incarcération injuste de notre ami Milia Pulli ne fait que renforcer notre conviction de devoir persister. Milia a été capturée alors que nous recherchions l'épée des cerfs, un objet légendaire dont pourrait sans aucun doute trouver l'histoire sur Internet. Nous savons désormais que cette épée est réelle, qu'elle est parfois désignée par nos ennemis comme l'épée des meutes, et qu'elle est détenue par les instances orco-goblinesques de la Bourse de Greylec. Cet objet est une relique majeure du patrimoine culturel populaire et revient de droit à la communauté des travailleurs de la terre de Greylec. Nous avons l'intention de nous introduire par la force dans la forteresse de la Bourse de Greylec et de récupérer l'épée. Seulement, nous ne pouvons le faire sans votre aide. Déjà, dans toutes les provinces, des voix s'élèvent. Des mouvements se forment, des manifestations ont lieu. Nous vous encourageons à continuer et à répandre ce mouvement jusqu'à la grève générale, pour la libération de notre ami Milia et pour notre libération à tous, nous, les opprimés. Ce sera le seul moyen de faire entendre nos voix. Nous avons là une occasion unique de renverser une bonne fois pour toutes la domination des oligarques ultralibéraux qui nous asservissent, nous exploitent et nous plongent dans la précarité généralisée. Yel reprit sa respiration. Nous invitons également chaque personne de la région de Dordelan, motivée, révoltée et capable de se battre, à se tenir prête pour nous aider à prendre la forteresse. Le combat qui s'annonce sera périlleux, et ce ne sera que grâce à l'union de tous que nous aurons une chance de venir à bout des embûches que nous tendront les gardiens de l'oligarchie financière. Notre compagnie se compose d'une naine, d'une fée, d'un être humain, d'un gnome et de moi-même, magicienne. De même, partout en Greylec, il est temps de mettre de côté nos différends et nos divergences culturelles. Il est temps de s'allier contre la toute petite minorité qui est la classe dominante et qui fait tant de mal. Il est temps d'arrêter de subir, d'arrêter de se résigner et de résister. Exploités de tous bords, prolétaires, marginaux, misérables, serfs, esclaves, levez-vous et reprenez ce qui est à vous. Malgré son habituelle imperméabilité au grand discours, Barn ne put réprimer une sorte de frisson en entendant les paroles de Carmalière. Il avait dans ses doigts un petit bout de technologie par lequel ses mots seraient bientôt entendus par des milliers, peut-être des millions d'êtres vivants sur la terre de Greylec. il avait la sensation d'être l'une des ailes d'un papillon qui allait bientôt déclencher un cyclone d'une puissance inimaginable. La simple idée lui donnait le vertige. Le magicien sourit et conclut son discours. C'était Carmalia pour Radio Guérilla. Il fit signe à Barnes de couper et celui-ci, après une petite pression sur l'écran tactile, abaissa le téléphone. Radio Guérilla ? Demanda Barnes en haussant un sourcil. C'était mon idée, signa Amélis. Je me suis dit que quitte à lancer une révolution, autant le faire avec panache. Le reste du discours me semblait assez panaché, remarqua Barnes. Radio Guérilla, on dirait presque le titre d'un roman. Amélis eut un petit rire. Si ça t'interpelle, alors c'est que c'est un bon titre, croisant mon expérience. Ton expérience, répondit un Barnes sceptique. Il faut savoir faire de bons titres pour être infirmière? Je suis bénévole dans une maison d'édition associative, répondit la fée comme si elle énonçait l'évidence. Ce fut Barnes qui sembla amusé cette fois. Quoi ? Fit Amélis sur la défensive. Ça vient donc de là, cette passion pour la typographie. Une maison d'édition associative. Des bouquins de syndicalistes, j'imagine. Le manuel du parfait petit militant, ou des trucs du genre. Tu te rends compte que j'ai autre chose dans ma vie que le militantisme, j'espère ? Non, sérieusement ? Amélis comprit que Barnes la taquinait volontairement et fit mine de lui mettre une petite baffe. « Tu es un idiot. On publie de la science-fiction, des récits qui parlent d'autres mondes, d'autres temps. Tu devrais publier l'histoire d'un groupe de pieds-nickelés qui arrive à lancer une révolution avec une simple vidéo enregistrée dans la cour d'un immeuble pourri, » murmura Barnes. « On en aurait besoin. » Amélis le regarda dans les yeux. Même en ayant vu les manifestations spontanées à la télévision, Barnes conservait un certain fatalisme ancré en lui par des années de morosité et de « à quoi bon ?»« Ça marchera », lui affirma Amélis, confiante. « Dès lors que nous aurons téléversé la vidéo, elle sera rapidement partagée, je te le garantis. » Les chaînes d'information ne résisteront pas à la tentation de la diffuser, même s'ils la présenteront peut-être comme une vidéo de revendication terroriste. Peu importe, le mal sera fait. Et la viralité deviendra incontrôlable.
Vous pensez que beaucoup de gens répondront à notre appel ?
Dit Pod. Les gens n'ont pas attendu que quelqu'un les y appelle pour descendre dans la rue, remarqua Carmalière. J'aimerais pouvoir nous attribuer le mérite d'avoir déclenché ce feu, mais en réalité, nous ne faisons que souffler dans des braises déjà bien chaudes. Pod, qui était le plus technophile d'entre tous, se chargea de mettre en vidéo la ligne et en envoya le lien à plusieurs de ses amis. Les autres firent de même. Carmalia prenant soin d'inclure Soriam Palor, le président de la FNT, dans la liste des destinataires. « Tout de même, murmura Barnes, vous êtes certain que c'est une bonne idée de révéler nos plans pour la forteresse ? Je veux dire, nous avons littéralement prévenu nos ennemis de notre arrivée. Pour l'effet de surprise, c'est raté. Hein. » « Les autorités de la forteresse doivent de toute manière attendre notre arrivée, » dit Amélis. « Il ne faut pas être un fin limier pour comprendre que notre prochaine cible ne peut être que celle-ci. » Nous ne leur avons rien appris dont ils ne se doutaient déjà. De toute manière, s'ils ont placé l'épée là-bas, l'aspect secret est secondaire. C'est surtout le haut niveau de sécurité qui a dû motiver leur décision. Je doute qu'ils la déplacent même en sachant que nous arrivons. Il n'existe tout simplement pas de meilleur endroit. Nous jouons carte sur table, appuya Carmalière. Je reconnais que c'est gonflé et qu'avancer à découvert présente des risques. Mais je suis persuadé qu'ils seront largement compensés par les avantages, à commencer par le soutien populaire, l'appui de la foule. Pod avait les yeux rivés sur le téléphone, et au bout de quelques minutes leva la tête avec un sourire.
« Déjà 10 vues, » dit-il, « il n'y a plus qu'à attendre. »
Lorsque le soir tomba, la vidéo était déjà devenue virale. Il ne faisait aucun doute qu'elle serait diffusée aux journaux du soir. Mais, même sans cela, le nombre de visionnages dépassait largement l'audience de n'importe quelle émission de télévision. Comme cela était l'usage, les internautes se jetaient à la gorge les uns des autres dans la section commentaires de la vidéo. Les rares modérés étaient noyés entre les longues tirades véhémentes des pro-FNT et des anti-FNT. Un des commentaires négatifs les mieux notés était attribué à un certain FIF Master Dr. GN. Barnes reconnut immédiatement la photo associée au profil de l'internaute. « C'est le type du bar ?»« Mort Saraz, » confirma Carmanière. « Le leader du front des inertes fiers, le FIF. Je l'avais reconnu au moment où il avait retiré sa capuche. Un sale type. »
J'avais remarqué. Son commentaire fait 3 paragraphes, principalement des insultes et des théories complotistes racistes. Charmant.
Pod haussa les épaules.
C'est du commentateur standard sur Internet, hein, si vous voulez mon avis. Au bout d'un moment, on ne fait plus attention. C'est juste de la haine bête et méchante.
Ça me semble réducteur, tempéra Kermadière. Que Saraz soit haineux, ça ne fait aucun doute. Mais comme souvent, ça peut s'expliquer assez aisément. Vois-tu, Saraz vient de l'Oralie, région sinistrée s'il en est. Comme souvent, la haine puise sa source dans la misère.
Saraz n'a pas l'air franchement miséreux, fit remarquer Barne.
Lui, non, mais il a sans aucun doute grandi dans l'ambiance morose des anciennes villes minières. La Loralie était autrefois une région florissante grâce aux réserves d'Orichalc qu'abritait son sous-sol. Avant que l'amitié entre elfes et humains ne soit entérinée, on l'utilisait beaucoup l'Orichalc comme source d'énergie magique pour l'industrie. Seulement, à mesure que la collaboration entre êtres magiques et inertes se renforçait, il devint de moins en moins rentable d'exploiter des mines d'Orichalc. Elles devenaient de plus en plus profondes et dangereuses à cause de l'épuisement des ressources. Alors, même si l'on peut difficilement tenir les elfes, en tant que communauté, comme responsables de la déchéance de la Loralie, il reste malgré tout un fort sentiment anti-elfe chez beaucoup de Loraliens. Un fabuleux terreau pour la croissance de mouvements identitaires inertes. Ajoutons à cela une atmosphère ambiante favorable à l'amitié et la paix entre inertes et êtres magiques, ce qui est une excellente chose, mais que les cyniques nomment bien-pensance. Eh bien, tu as tous les ingrédients pour créer un extrémiste. Un certain malaise s'abattit sur le groupe. On dirait presque que vous trouvez cela normal, que Saraz promeuve une idéologie haineuse et violente, que vous le justifiez même.
J'ai dit que c'était une explication, répondit doucement Kermanière, pas une excuse. L'exploitation minière de l'Orichalc était une horreur. Des centaines de mineurs y ont laissé leur santé, voire leur peau. Mais ils avaient un emploi, une situation. Certes, la fermeture des mines était un choix de société, politique, voulu, mais il est plus simple de mettre cela sur le dos des elfes que de considérer que c'était au pouvoir en place de prendre en charge les mineurs au lieu de les abandonner au déclassement et à la misère. La haine de Saraz a des racines profondes, mais comme nous tous, il est responsable de ses actes et de ses paroles. S'il attaque, il doit s'attendre à une réponse ferme et implacable de notre part. L'avalanche de commentaires de membres du FIF et de contre-commentaires de leurs détracteurs fit qu'il fut difficile d'estimer qui, des opposants ou des supporters à la FNT, étaient les plus nombreux. Une seule chose était certaine, le message était passé. La compagnie, quant à elle, avait mis à profit le reste de l'après-midi pour préparer le périple. Le contenu du camion avait été disséqué et analysé par Kermadière et Amélise qui étaient les seuls à avoir les compétences nécessaires. Certains objets avaient des capacités magiques fort intéressantes, mais malheureusement, il était inutile d'essayer d'emporter ceux qui étaient offensifs. Seuls les objets de soins ou de défense avaient une chance de passer la sécurité à l'aéroport. « Adieu les rayons de glace !» fit tristement Amélise en reposant une baguette dans une des caisses qu'ils avaient transportées dans l'appartement de Jasion.
« Je croyais que les avions de ligne avaient tous un champ d'annulation magique, » dit Pod.
« C'est le cas, » répondit Kermadière. « Dans le cas contraire, il serait impossible de protéger les passagers contre des magiciennes comme moi, qui, tu l'auras remarqué, ont naturellement des armes potentiellement mortelles en eux. Il fut d'ailleurs un temps où seuls les inertes étaient autorisés dans les avions. Même s'il y a un champ d'annulation magique mis en place et qu'il est impossible de jeter des sorts à l'intérieur de l'appareil, dit Amélise, il est hors de question pour eux de prendre des risques supplémentaires. On n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui trouve une faille dans le champ. » Jasion fit son retour dans l'appartement avec des nouvelles de la situation à Bundir.
Ça commence à pas mal chauffer dans les rues. Il y a des fourgons blindés aux portes de la banlieue. Pour l'instant, j'ose pas rentrer, mais ça va venir.
Ils vont quadriller le quartier, dit Kermadière. Il va falloir qu'on parte dans les plus brefs délais.
Pour les passeports, dit Jasion. J'ai un gars qui s'en occupe. Ça devrait être presque ce soir. J'ai déjà vos faux noms,
ajouta-t-elle en agitant un petit morceau de papier. Grâce à ses faux noms, Pod put acheter des billets d'avion en ligne. Le vol qui leur permettait d'atteindre Dordelan le plus tôt possible partait de bonne heure le lendemain matin. Ils y réservèrent 5 sièges à l'aide d'une carte bancaire qui n'était pas au nom de Jasion.
« Me regarde pas comme ça, le grand » fit-elle en voyant l'air soupçonneux de Barne. « C'est la carte d'un pote. je suis pas assez conne pour faire des achats avec une carte volée. Si le type qui se l'était fait chouraver s'en rendait compte avant le vol, on serait bien marron.
L'aéroport de Sorbourg-Voltaron était situé au nord-est de la capitale. C'était une sorte de point névralgique de richesse planté au beau milieu des banlieues pauvres, relié à la capitale par un train qui était le rare lieu de mélange entre banlieusards et voyageurs bourgeois ou de classe moyenne. La compagnie décida qu'il serait certainement préférable de s'y rendre à pied. Dans le contexte actuel, les routes à proximité de Bondir seraient étroitement surveillées. Pour ce qui était des transports en commun, malgré la proximité entre Bondir et Voltaron, ils étaient pratiquement inexistants, à moins de passer par une correspondance au centre de la capitale, ce qui était exclu. La situation dans les rues de Bondir se faisait de plus en plus critique à mesure que les heures passaient. Depuis l'appartement de Jasion, on pouvait entendre des clameurs monter et apercevoir des feux allumés çà et là. Une odeur de brûlé se répandait lentement dans la banlieue et la nuit ne faisait que commencer.
« Les passeports sont prêts !» annonça Jasion vers 23h, en indiquant le message qu'elle venait de recevoir sur son téléphone.
« Eh bien, » fit Amélise, « c'était sacrément rapide !»«
On est efficaces, nous les nains !» répliqua Jasion avec une petite moue de fierté. « Je vais les chercher !»
« Nous venons avec vous, » dit Carmaillère. « C'est plus prudent. »
La naine éclata de rire.
« Vous croyez que j'ai besoin de vous d'autres pour me protéger? Vous êtes plus en danger que moi ici. »«
Justement, » répondit le magicien, « j'aimerais autant que désormais nous nous séparions le moins possible. Si les émeutes se rapprochent de votre immeuble, nous serons sans doute forcés de fuir. Et comme vous l'avez dit, il serait alors préférable que vous nous accompagniez pour notre propre sécurité. »
Barne devait bien reconnaître que Carmaillère savait la jouer finement lorsqu'il s'agissait de dialoguer avec une personne réticente à suivre ses projets. Ils quittèrent l'appartement ensemble et plongèrent dans l'ambiance électrique et quelque peu angoissante d'un soir d'émeute à Bondir. La rue sur laquelle donnait l'immeuble de Jasion était une impasse qui restait quasiment vide, mais l'une des grandes artères de la banlieue passait à quelques mètres de là. Le tumulte qui en émanait était impressionnant. Les compagnons se mirent en route en rasant les murs. Ils tentaient de rester à l'abri de la lumière et des lampadaires susceptibles de trahir leur présence. Bientôt, ce fut la lumière rougeoyante de plusieurs voitures en flammes qui projeta leur atypique ombre sur le sol. Barne était stupéfait par la chaleur que dégageaient ces véhicules en se consumant. Il la ressentait même en se tenant à plusieurs mètres et elle lui rappelait, d'une façon assez inattendue, la boule de feu de Carmaillère dans la bibliothèque nationale des Prudorques. Des nains passèrent en courant à côté d'eux. Certains avaient le visage dissimulé derrière un foulard. Ils leur jetèrent des regards étonnés, mais la présence de Jasion en tête de cortège sembla suffire à dissiper leurs soupçons. Lorsque la compagnie atteignit le boulevard suivant, l'atmosphère changea radicalement. Plusieurs dizaines de nains s'activaient dans tous les sens. Uniquement des nains de genre masculin, pour ce que Barne arrivait à en distinguer. Il lançait des projectiles en direction de plusieurs fourgons blindés, arrêtés à l'autre extrémité du boulevard. Parfois, une grenade lacrymogène atterrissait sur le sol avant d'être immédiatement attrapée et retournée à l'envoyeur par un banlieusard masqué. Des poubelles et des bennes à ordures renversées brûlaient un peu partout et faisaient vibrer sur les façades des immeubles des formes oranges et noires, ombres mouvantes de la foule qui livrait bataille. Il y avait presque de la beauté dans cette danse de flammes et de corps qui s'agitait dans une chorégraphie déchaînée. La compagnie s'était arrêtée, toujours cachée contre un bâtiment de la ruelle adjacente par laquelle elle était arrivée. Barne était hypnotisé par cette scène de guérilla urbaine. Lui qui n'en avait eu que de vagues avant-goûts par la télévision et qui, d'ordinaire, se rangeait plutôt du côté de la police que des banlieusards.
« Faut qu'on traverse, » dit Jasion. « Mon pote nous attend dans une rue de l'autre côté. »«
Prudence, » dit Carmaillère. « Si les forces de l'ordre nous aperçoivent, nous sommes fichus. Même de loin et dans le noir, nos apparences détonnent largement avec celles des indigènes. La dissimulation est notre meilleure force pour le moment. »«
Qu'est-ce que vous suggérez ?» demanda Pod.
« Une diversion. » La magicienne passa la tête dans le boulevard où l'émeute faisait rage et jeta un œil en direction des fourgons blindés.
« Attention, Carmaillère, » s'alarma Barne. « N'allez pas vous épuiser avec un sort trop puissant. Nous avons à peine commencé notre périple. »«
Je te remercie de ta sollicitude, Barne, mais je ne suis pas en sucre. Pas plus aujourd'hui qu'hier. La différence, c'est qu'hier, j'ai dû réagir dans l'urgence pour te sauver la vie. De toute façon, utiliser une magie trop voyante serait aussi imprudente que traverser à découvert. Un sortilège lancé dans une banlieue naine nous trahirait immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Improviser. Tenez-vous prêt à courir vers la ruelle en face. Carmanière observait les mouvements des différents assaillants qui se faisaient face dans la rue. Les policiers lançaient toujours leurs grenades lacrymogènes et tiraient parfois au flashball. Les banlieusards répliquaient en envoyant des morceaux de mobilier urbain, faute de pavés, et parfois même des bouteilles enflammées remplies d'essence. La plupart intéressés au beau milieu du No Man's Land qui s'était formé à mi-chemin entre les deux camps. Au moment où l'une de ces bouteilles d'essence s'envola des mains d'un des combattants nains, Carmanière fit un pas en avant et leva la main d'un coup sec vers la bouteille. Celle-ci, au lieu d'atterrir sur le sol, fit un bond en avant et alla se fracasser contre l'un des fourgons blindés, générant une forte déflagration. « Maintenant !» ordonna Carmanière, alors que les policiers en formation autour des fourgons se mettaient à l'abri et protégeaient leur visage des projections de l'arme incendiaire. Les cinq compagnons traversèrent la rue en hâte, frôlant le nain lanceur de bouteilles qui avait l'air abasourdi d'avoir réussi un tel tir. Jason et Pod furent les derniers à atteindre l'autre côté du boulevard, mais c'était sans importance. Si les policiers avaient relevé la tête à ce moment-là, ils n'auraient vu que deux petits êtres au milieu des nains qui les affrontaient. Rien d'inhabituel en somme. « Par ici !» dit Jason en les entraînant dans une autre ruelle. Partout dans les rues, ils croisaient des nains qui rassemblaient des projectiles ou des armes de fortune et se préparaient à en découdre. Aux fenêtres, ils apercevaient souvent des curieux qui observaient les échauffourées depuis leur salon, lumière éteinte pour ne pas attirer l'attention. Le bruit de l'hélicoptère qui n'avait jamais cessé de survoler la banlieue allait et venait. De temps à autre, la froide lumière projetée par la lampe braquée de l'engin balayait la rue. La compagnie se pressait alors contre le mur en attendant que l'obscurité revienne les protéger. « On y est !» fit Jason lorsqu'ils s'engouffrèrent dans une minuscule impasse dans laquelle on aurait à peine pu garer trois voitures. « Jason !» dit une voix dans l'ombre. « Sors de ta cachette, Tyrène !» Un nain, beaucoup plus jeune que Jason, s'avança dans la lueur du seul lampadaire de l'impasse. Il était habillé d'un survêtement assez peu élégant et avait l'air louche, typique des nains. Du moins, ce fut la première pensée de Barnes avant qu'il ne se rende compte qu'il se vautrait là dans une forme de racisme ordinaire, ce dont il n'était pas fier du tout.
« Je pensais que tu serais seul, » murmura le nain. « Vu le bazar, on a préféré venir ensemble. T'as les papiers ?»
Tyrène dévisageait chacun des membres de la compagnie. Barnes comprit bien vite que le réflexe d'hostilité qu'il avait eu envers le nain était largement partagé par celui-ci.
« Tyrène ?» insista Jason devant son absence de réponse. « Ouais, ouais, je les ai, tiens. »
Il lui tendit un petit sac en plastique et elle en tira cinq passeports qu'elle examina et distribua aux intéressés.
« Joriot de la Pinalie ?» demanda Barnes en découvrant sa fausse identité.
« Vous n'aviez pas moins débile comme nom ?»«
Ça ira bien avec ta tronche de premier de la classe, » railla le nain. « D'ailleurs, ne devriez pas traîner ici, ça chauffe. On pourrait vous prendre pour des poulets, ou pire, des balances. »
Carmanière fit un signe de remerciement à l'ami de Jason et ils s'apprêtèrent à prendre congé. Ce fut le moment que choisit un groupe de nains pour faire irruption dans l'impasse. Ils étaient une dizaine, armés d'objets contendants difficiles à identifier dans la pénombre. Barnes eut l'impression de reconnaître une batte de baseball.
« Alors comme ça, il y a des balances par ici ?» lança un des nains. « En tout cas, il y a des grandes tiges, » renchérit un second. « Et les grandes tiges à Bundir, on n'aime pas trop ça. »
« Attendez une seconde !» dit Carmanière en levant les bras. « Nous ne sommes pas vos ennemis !»«
Toutes les grandes tiges sont nos ennemis !» vociféra le premier nain. « Ils sont avec nous !»
fit Jason en s'avançant et en tirant Tyrène par le bras. Les nains dévisagèrent sournoisement Jason et Tyrène. Barnes sentait que la situation risquait de dégénérer à tout instant. Il repensait à leur altercation avec le front des inertes fiers dans ce bar de Sorbourg. Cette fois, aucun orque barman solidaire n'allait accourir pour les sortir du pétrin.
« Mais c'est ce vieux Tyrène !» fit celui qui semblait être le meneur de la bande. « Tu commerces avec de l'elfaillon maintenant ?»« Foutez le camp tous les deux » coupa-t-il d'une voix dure.
Tyrène ne demanda pas son reste et détala à toutes jambes. Jason, elle, ne bougea pas.
« Dites donc » dit-elle au meneur. « Je te connais, toi !» T'es pas le chien de Marika ? »
C'était comme si Jasion l'avait giflé. Le nain ouvrit de grands yeux surpris et ses camarades prirent des expressions scandalisées. Barnes se rendit alors compte qu'ils étaient effectivement bien jeunes.
« Mais si !» poursuivit Jasion. « Le Momwigan, c'est ça ? Quand je pense que je t'ai torché le cul, pour que tu finisses comme ça ?»« La ferme !» tonna le meneur qui s'appelait apparemment Wigan. « Une forte tête, hein ? Qu'est-ce que tu fous d'or à cette heure ? L'est où ton mari ?»« Je prends l'air. Et toi, gamin, qu'est-ce que tu fous là ? Ta maman t'a pas encore couché ?»
Le meneur leva son arme, un petit couteau, en direction du visage de Jasion. Il était à 2 mètres de distance, mais restait malgré tout menaçant.
« Fais attention à ta langue. T'as la chance d'être une femme, ou on t'aurait déjà taillé des pour avoir osé traîner avec des grandes tiges. »« Eh bah viens, dis. Je t'attends. T'es tout seul derrière ton canif. Tu sais c'est qui les grandes tiges, là ? C'est les gus qu'ont désingué 2 blineux à la bibliothèque l'autre jour. »
Le nain jeta un œil suspect à la compagnie.
« C'est vrai, ces conneries ? Bien sûr que c'est vrai. Si t'avais pas fait souiller son froc au vieux Tyrène, il aurait pu te le dire, vu qu'il vient de leur faire des paplards tout neufs. »« Alors c'est à cause de vous, tout ce bordel ?» s'écria un des autres nains. « Les illicots, les condés !»« Et tu vas faire quoi ?» répliqua Jasion. « Nous balancer pour avoir la paix ? Vas-y, va rencarder la flicaille, on te regarde !»
Les regards se tournèrent vers le nain, qui fit son possible pour ne pas laisser transparaître la honte que lui avaient procuré les paroles de Jasion.
« On pactise pas avec les condés !» balaya le meneur. « Mais il a pas tort. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre à bondir ?»
Cette fois, il s'adressait directement à la compagnie, et Kermanier répondit. « Jasion nous a porté secours, alors que nous étions pourchassés. Nous avons trouvé refuge chez elle, mais nous n'avons jamais eu l'intention d'attirer des ennuis ici. Nous allons quitter le quartier dès à présent, et ensuite, vous n'entendrez plus parler de nous. » Le meneur avait l'air de réfléchir. À le voir, il était aisé de deviner le fond de sa pensée. Il n'avait aucune sympathie pour les êtres magiques et les grandes tiges, comme il les appelait. Mais il vouait en même temps une aversion viscérale aux gobelins et aux orques, et de manière générale à n'importe quelle figure d'autorité. Quelque part, toute personne qui se rebellait contre l'autorité ne pouvait pas être foncièrement mauvaise à ses yeux.
« Vous allez où comme ça ?»«
Nous essayons de nous rendre au... » commença Kermaïa avant d'être coupé par Jasion.
« Au nord-est, on va aussi casser du blineux, mais ailleurs. Le quartier est bouclé, » dit le meneur. « Vous allez pas aller loin. »« Vous allez pas aller loin parce qu'on vous laissera pas partir, » dit un autre nain. « Pas vrai, Widon ?»« On se calme, » répondit le meneur. « S'ils ont buté des blineux, on va pas leur taper dessus. » »« On s'en fout, c'est pas nos histoires, ça. » « Et pourquoi que tu crois que les filles sont là, abrutis ? Son service des orques, comme d'habitude. Dès qu'il y a un pet de travers et du gratin, il rapplique. Puis merde, n'importe qui se frite avec des blineux ou des orques est de notre côté. »
Barnes trouvait le raisonnement de Wigan simpliste, voire carrément binaire, mais puisqu'il lui était favorable, il ne fit aucune remarque. Le second nain se tut. De toute évidence, Wigan était le type de meneur qui ne souffrait pas longtemps la contradiction.
« On peut vous aider à quitter Bundir, » dit-il. « Toi, par contre, tu rentres chez toi, » ajouta-t-il à l'attention de Jasion. « Et pourquoi, je te prie ?»« Parce qu'une femme naine a rien à foutre dehors à cette heure, » s'énerva-t-il à nouveau. « Et surtout, rien à foutre avec tes grandes tiges, même si elles sont réglo. »« Mon poussin, tu vas arrêter tout de suite de me donner des ordres. Je suis pas ton pote, j'ai 2 fois ton âge et je suis pas d'humeur. » « J'ai plus de mari depuis longtemps et mes mômes sont partis. Alors tes idées sur les devoirs de mère de famille, tu te les carres où je pense. Je vais tabasser du blineux avec les autres et c'est pas un merdeux comme toi avec sa bande de déglingués qui va m'en empêcher. »
Cette fois, Wigan ne se laissa pas impressionner, mais ne se fit pas plus menaçant. La bande ne le regardait et épiait chacun de ses gestes. Il fixa Jasion quelques secondes, silencieux. Puis s'approcha d'elle lentement jusqu'à avoir son visage à quelques centimètres du sien.
« Très bien, la vieille » murmura-t-il, juste assez fort pour que tout le monde l'entende. « Tu veux te barrer et aller faire mumuse avec les grandes tiges ? Vas-y, on rira bien quand tous les habitants de Bundir t'auront vu te déshonorer devant toute la terre de Grilek. Tu comptes parvenir après ça, j'espère. »« Ça, c'est mon problème. »« Ouais, t'as raison. Prépare-toi même à de sacrés problèmes. Oh !» Une dernière chose, cause-moi encore une fois comme ça et je te plante, vu ?
Il agita son petit couteau devant les yeux de Jasion, qui resta de marbre. Elle ne répondit pas. Wigan baissa son arme, et les autres nains parurent se détendre. Il n'y aurait pas de bagarre dans l'immédiat.
« Passez devant !» indiqua Wigan. « Allons casser du flic !»